Sœurs et frères, merci. Merci pour votre foi en Jésus-Christ. Merci pour votre courage de témoigner de son nom. Et merci pour tout ce que vous faites pour devenir et pour aider les autres à devenir de vrais disciples de Jésus-Christ et pour jouir des bénédictions du Saint-Temple. Vous êtes beaux, vous êtes aimés. Presque chaque fois que je me trouve sur un campus universitaire, je me souviens de mes débuts en tant qu'étudiant. J'ai terminé mes études secondaires à Hawaï. Pendant ma dernière année d'études, la plupart de mes amis envisageaient d'aller à l'université. C'était une idée nouvelle pour moi, car aucun membre de ma famille n'était allé à l'université. J'ai rendu visite à la conseillère de mon lycée pour lui faire part de mon désir de poursuivre des études universitaires. Elle a été surprise et a gloussé un tout petit peu, ou peut-être beaucoup. Elle m'a gentiment suggéré d'autres options que des études universitaires. J'ai quitté son bureau, déçu, mais pas découragé. J'ai ensuite rendu visite à l'entraîneur de basket de mon lycée et lui demandé quelles étaient les possibilités qui s'offraient à moi pour aller à l'université. Il a été honnête et m'a dit que l'un des moyens pour moi d'aller à l'université était d'obtenir une bourse d'athlétisme. J'ai donc commencé à rassembler des articles de presse sur mes succès en tant qu'athlète au lycée et j'ai écrit des lettres à plusieurs universités. C'était avant Facebook, Instagram, TikTok et le courrier électronique. J'ai reçu de nombreuses lettres de refus et beaucoup d'universités n'ont pas répondu. Heureusement, j'ai reçu une bourse partielle pour jouer au basket à l'université Brigham Young, Hawaï. Quelques semaines avant la rentrée, j'ai rencontré une conseillère pédagogique pour m'inscrire à des cours. Elle m'a indiqué qu'étant donné que BYU Hawaï était une institution religieuse, il faudrait que je suive des cours de religion dans le cadre de mes études. À l'époque, j'étais un musulman, un membre fidèle de la nation de l'islam. J'ai exprimé le désir de mieux comprendre la vie et le ministère de Jésus-Christ, et il m'a été recommandé de m'inscrire à un cours sur le Nouveau Testament. Au cours de la conversation avec ma conseillère pédagogique, elle a aussi examiné mes relevés de notes du lycée et s'est montrée très surprise. Elle m'a dit qu'en raison de mes résultats scolaires au lycée, ou de leur absence, je serais placé en probation académique et que si je n'obtenais pas une moyenne d'au moins 12 sur 20 à chacun des deux premiers semestres à BYU Hawaii, je perdrais ma bourse d'athlétisme. J'avais dit à ma conseillère, j'ai dit « Attendez un peu ». J'ai obtenu la note de 35 à la CT. Elle a été surprise. Je lui ai répondu « Oui, j'ai eu 17 la première fois et 18 la deuxième fois ». Eh bien, je pense toujours que c'est cumulatif, n'est-ce pas? Non, en réalité, je n'avais jamais passé la CT. Eh bien, le reste de l'histoire est ceci. J'ai obtenu la moyenne requise, j'ai joué au basket dans la division 1 de la NCAA, j'ai obtenu un doctorat de l'Université d'État d'Arizona, et j'ai terminé ma carrière professionnelle en tant qu'expert comptable et professeur associé de comptabilité à l'Université de l'Alabama. Avec l'amour pour Jésus-Christ et la foi en lui, la détermination, le travail acharné et beaucoup, beaucoup d'aide, beaucoup de bien peut être accompli. Après avoir obtenu mon doctorat, j'ai enseigné ici à BYU, à l'école de commerce Marriott, en tant que professeur adjoint de comptabilité. Mon épouse Stéphanie et moi-même n'avions jamais étudié à BYU au cours de nos études universitaires. Et nous voulions donc vraiment connaître le mode de vie et les défis auxquels les étudiants font face sur ce campus. Pendant les 6 premiers mois que j'ai enseigné à BYU, nous avons vécu à Whiteview Park, un logement pour étudiants mariés. Nous avons emménagé avec nos 4 jeunes enfants dans un appartement de 3 chambres à coucher, très serré et douillé, dont la superficie ne dépassait pas les 75 mètres carrés. Chaque matin, je me rendais à pied au bâtiment Tanner, ce qui m'a donné l'occasion de discuter avec les étudiants et de découvrir leurs difficultés et les caractères uniques de la communauté du campus de BYU. Au cours des 8 années suivantes, en tant que membre de la faculté, j'ai pu apprécier la bonté, la détermination et le courage des étudiants de BYU. Vous devenez fidèle, dévoué, intellectuellement capable et spirituellement perspicace à mesure que vous venez au Christ dans tous les aspects de votre vie. Grâce à ces expériences et à d'autres, je me suis rendu compte que lorsque nous venons au Christ, il suit un modèle d'instruction. Il enseigne des vérités éternelles, lance des invitations à agir et promet des bénédictions à ceux qui agissent avec foi pour répondre à ces invitations. le prophète du livre de Mormon, Lehi, a donné un exemple de ce principe lorsqu'il a partagé une vision de l'arbre de vie avec sa famille. Deux de ses fils, Lamon et Lemuel, avaient des questions concernant le symbolisme associé à cette vision. Dans 1 Nephi 15, les versets 23 et 24, ils ont demandé à Nephi, le frère Cradé, « Que signifie la barre de fer que notre père a vue, qui conduisait à l'arbre de vie ?» Nephi, guidé par le Saint-Esprit, illustre le modèle d'instruction du Christ. Il a répondu en enseignant une vérité éternelle et en lançant une invitation avec des bénédictions promises. Nephi a dit, « Et je leur dis que la barre de fer était la parole de Dieu, et quiconque prêtait l'oreille à la parole de Dieu et s'y tenait fermement ne périrait jamais, et les tentations et les traits enflammés de l'adversaire ne pourraient pas non plus avoir le dessus sur lui au point de l'aveugler pour l'entraîner vers la destruction. » Le Christ, par l'intermédiaire de son serviteur Nephi, nous a invités à écouter la parole de Dieu et à nous y tenir. En acceptant cette invitation, le Seigneur a promis que nous ne périrons jamais et que les tentations et les traits enflammés de Satan ne pourront jamais avoir le dessus sur nous ni nous entraîner vers la destruction. Une invitation à agir avec la promesse que, grâce à Jésus-Christ, à son sacrifice, à sa mort et à sa résurrection, nous trouverons le vrai bonheur en lui. Je prie pour que le Saint-Esprit éclaire chacun d'entre nous alors que nous comprenons la vérité éternelle concernant l'expiation de Jésus-Christ et que nous agissons avec foi pour répondre aux invitations du Seigneur afin que nous puissions recevoir les bénédictions qu'il nous a promises. Une vérité éternelle. Vous vous souvenez des dernières heures de la vie du Christ. C'était la saison de la Pâque, une grande fête juive qui célèbre l'exode des Israélites de l'esclavage en Égypte. C'est à cette époque que Jésus a institué la Sainte Cène. Les Écritures racontent « Jésus prit du pain et le bénit, le rompit et le leur donna, en disant « Prenez-le et mangez. Voici, faites ceci en souvenir de mon corps. Car chaque fois que vous le ferez, vous vous souviendrez de cette heure où j'étais avec vous. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est un souvenir de mon sang, qui est répandu pour beaucoup, et la nouvelle alliance que je vous donne, car vous témoignerez de moi au monde entier. Toutes les fois que vous accomplirez cette ordonnance, vous vous souviendrez de moi en cette heure que j'étais avec vous, que j'ai bu avec vous de cette coupe pour la dernière fois de mon ministère. » Jésus a enseigné à ses apôtres bien-aimés la signification de la Sainte Cène, et que, par cette sainte ordonnance, nous sommes liés au Christ et qu'il est lié à nous. Après l'administration de la Sainte Cène, il a adressé ses paroles à Pierre. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Et je crois qu'il prie continuellement pour vous et pour moi, afin que notre foi en lui ne défaille pas. Après l'administration de la Sainte Cène et le conseil du Christ à Pierre, nous lisons dans le Nouveau Testament que Jésus a marché avec ses apôtres jusqu'au mont des Oliviers et jusqu'à Gethsémané, le lieu du pressoir à olives. Le livre de Luc rapporte « Après être sorti, il alla selon son habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé en ce lieu, il dit à ses apôtres, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria. « Sœurs et frères, visualisez dans votre esprit Jésus donnant à ses apôtres l'instruction de prier pour vaincre la tentation, puis s'éloignant d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, c'est-à-dire d'environ 25 à 35 mètres. » Il s'est ensuite agenouillé pour prier, en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » À ce moment-là, Jésus savait qu'il allait prendre sur lui les péchés et les peines du monde. Et il a peut-être demandé, « Père, y a-t-il un autre moyen pour moi de payer ce prix pour la famille humaine? Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le Sauveur ressentit la douleur de tous nos péchés et de toutes nos infirmités, de nos chagrins, de la dépression, de nos angoisses et de nos sentiments de marginalisation, d'abus, d'oubli et de maltraitance. Chaque expérience mortelle qui nous fait ressentir de la douleur, de l'angoisse et de la déception, le Christ l'a ressenti en cette heure même. Et la douleur était si grande que Jésus a saigné par tous les pores de son corps. Eh bien, vous connaissez la suite de l'histoire. Judas a trahi Jésus par un baiser. Jésus a été arrêté et battu, et une couronne d'épines a été placée sur sa tête. Il a été jugé et condamné à mort. Il a été forcé à porter sa propre croix jusqu'au lieu d'exécution, connu sous le nom de Calvaire. Les bourreaux lui ont cloué les mains et les pieds. Jésus a subi encore plus de douleurs. Enfin, Jésus a renoncé à sa vie, pour que vous et moi puissions jouir de cette vie en plus grande abondance, alors que nous nous préparons à la vie éternelle avec Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le premier dimanche de Pâques, Jésus-Christ est ressuscité. Son corps a été réuni à son esprit dans un corps parfait et glorifié. Il a invité ses disciples et d'autres personnes à venir à lui, afin de mettre la main dans son côté, et aussi afin de toucher la marque des clous dans ses mains et dans ses pieds, afin qu'il sache qu'il est le Dieu d'Israël et le Dieu de toute la terre, et qu'il a été mis à mort pour les péchés, les angoisses et les douleurs du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. L'expiation de Jésus-Christ est une vérité éternelle. L'invitation de Jésus est simple, et les bénédictions qu'il a promises sont assurées. Comme il a déclaré, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Reconnaissons-nous son invitation? Reconnaissons-nous la puissance que nous pouvons tirer des bénédictions qu'il nous a promises? Le Christ nous invite à venir à lui avec la promesse qu'il nous donnera du repos. Le président Nelson décrit exactement ce qu'est ce repos. C'est le soulagement et la paix. Le Christ nous invite à prendre son joug sur nous et à apprendre de lui, car il est doux et humble de cœur. Encore une fois, voici la bénédiction promise. Nous trouverons le repos, car son joug est doux et son fardeau léger. Alors, comment faire? Comment venons-nous au Christ et recevons son joug et son repos? Permettez-moi de vous proposer trois choses que nous pouvons faire pour venir à lui plus pleinement. Tout d'abord, nous venons à Jésus-Christ en recevant ses ordonnances et en contractant et en respectant des alliances avec lui. Le président Nelson a dit, et je cite, « Chaque personne qui contracte des alliances dans les fonts baptismaux et les temples et qui les respecte bénéficie d'un accès plus grand au pouvoir de Jésus-Christ. Réfléchissez à cette merveilleuse vérité. Le respect des alliances avec Dieu apporte en récompense le pouvoir céleste, pouvoir qui nous fortifie pour résister à nos épreuves, nos tentations et nos chagrins. » Fin de citation. En janvier 2013, j'ai été appelé à servir en tant que premier président de pieux afro-américain en Alabama. Notre famille avait déménagé en Alabama environ 14 mois auparavant, et nous étions donc relativement nouveaux dans le pieu, qui couvrait plus de 1 500 km² et comptait 12 paroisses. J'ai donc ressenti le besoin de visiter chacune des 12 paroisses afin qu'elles puissent me connaître et que je puisse les connaître. Lors d'une de mes premières visites, j'ai été invité à rencontrer un frère après la réunion de Sainte-Seine. Lors de notre rencontre, il a fouillé dans sa poche pour me remettre sa recommandation à l'usage du temple. Ce frère était servant du temple. En me remettant sa recommandation à l'usage du temple, Il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas soutenir une personne de couleur comme président de Pure. Il m'a également dit que le fait que je sois marié à Stéphanie, une personne qui n'est pas de ma race, lui posait problème. Ce frère était sincère et honnête dans ses problèmes et ses préoccupations. Il était suffisamment conscient de lui-même pour reconnaître comment la maladie du racisme affectait sa capacité à venir au Christ. Il se sentait indigne d'adorer dans la maison du Seigneur, de recevoir les ordonnances et de contracter et de respecter ses alliances avec le Seigneur. J'ai réagi en rendant à ce frère sa recommandation à l'usage du temple et en lui disant que s'il avait un problème avec moi à cause de ma race et de mon mariage, alors il devait adorer Dieu dans la maison du Seigneur davantage et non pas moins. Le culte au temple peut nous aider à apprécier la beauté de la création de Dieu dans toute sa variété. Le temple peut nous aider à voir au-delà de nous-mêmes, de nos quartiers et de nos nations. Lorsque nous comprenons vraiment les ordonnances et les alliances du temple, nous reconnaissons que le Seigneur aime la diversité. Le Seigneur a observé lorsqu'il a achevé son œuvre, et moi, Dieu, je vis tout ce que j'avais fait, et voici toutes les choses que j'avais faites étaient très, très bonnes. Le Seigneur aime la diversité. Il m'aime, il vous aime. Il veut que nous sachions que nous appartenons à sa famille. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes vraiment des frères et des sœurs. Detod Christofferson a partagé, et je cite, « Le sentiment d'appartenance est essentiel à notre bien-être physique, mental et spirituel. Nous ne devons permettre à aucune forme de racisme, de préjugés tribaux ou d'autres divisions d'exister au sein de l'Église. » Le Seigneur a donné ce commandement. Soyez un, et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. Nous devons veiller diligemment à éliminer les préjugés et la discrimination du sein de l'Église, de nos foyers et surtout de notre cœur. Fin de citation. Plus tard, j'ai dit à ce frère en difficulté que s'il avait un problème avec moi, c'était un problème qu'il devait régler avec le Seigneur. Sachez que je n'ai aucun problème avec mon apparence. Je me sens bien dans ma peau. De plus, je n'ai aucun problème avec l'apparence de Stéphanie. Elle est d'une beauté incomparable. J'ai ensuite dit que j'étais tout à fait disposé à aider ce frère à surmonter son problème s'il me le permettait. J'ai senti qu'il souhaitait changer. Il était humble et aimait le Christ tout comme moi. Dans ce cas, j'ai demandé si je pouvais amener Stéphanie avec moi pour dîner avec lui et sa famille dans leur maison en tant que le président de Pieux. 2 mois plus tard, j'ai de nouveau visité la région et nous avons dîné chez lui avec sa famille. Une amitié s'est développée au cours des 5 années suivantes. Et lorsque j'ai été relevé en tant que son président de Pieux, nous nous sommes embrassés avec un tel sentiment d'amour et de fraternité. Nous avions tous deux compris le pouvoir spirituel que l'on reçoit par les ordonnances de la prêtrise et par le respect des alliances avec le Père et son Fils. Le président Nelson a déclaré que nous placer sous le joug du Sauveur à travers les ordonnances et les alliances signifie que nous avons accès à sa force et à son pouvoir rédempteur. Fin de citation. Comment venons-nous au Christ? Nous nous plaçons sous son joug en recevant ses ordonnances et en contractant et en respectant nos alliances avec lui. Deuxièmement, nous venons au Christ en devenant des apprenants engagés. Le président Nelson a lancé cette invitation à chacun d'entre nous. Plongez-vous dans les Écritures pour mieux comprendre la mission et le ministère du Christ. Apprenez la doctrine du Christ afin de comprendre le pouvoir qu'elle a dans votre vie. Intériorisez la vérité que l'expiation de Jésus-Christ s'applique à vous et à moi. Plus vous en apprendrez sur le Sauveur, plus il vous sera facile d'avoir confiance en sa miséricorde, en son amour infini et en son pouvoir qui apporte la force, la guérison et la rédemption. Fin de citation. Nous devenons des apprenants engagés lorsque nous étudions les Saintes Écritures, en particulier le Livre de Mormon, qui est un autre testament de Jésus-Christ. Le président Nelson a fait part de cette réflexion sur le Livre de Mormon lorsqu'il a dit ceci. « Lorsque je pense au Livre de Mormon, c'est le mot « pouvoir » qui me vient à l'esprit. Les vérités contenues dans le Livre de Mormon ont le pouvoir de guérir, réconforter, rétablir, secourir, fortifier, consoler et réjouir notre âme. Je vous promets que si vous étudiez tous les jours le Livre de Mormon en vous aidant dans la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. » Fin de citation. Quelle invitation, Quelle promesse, alors que nous cherchons à venir au Christ en tant qu'apprenants engagés des Saintes Écritures, y compris du Livre de Mormon. Enfin, nous venons au Christ lorsque nous servons les autres un par un, en utilisant les principes d'aimer, de partager et d'inviter. Le premier et le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit, de toute notre force. En augmentant notre désir d'aimer Dieu de tout notre cœur, en respectant ses commandements, le Seigneur renforcera notre capacité à aimer nos semblables et à nous aimer nous-mêmes. Notre amour pour Dieu devrait être la motivation première dans tout ce que nous faisons lorsque nous cherchons à servir les autres un par un. Avec amour, nous partageons notre temps, nos expériences, nos ressources et nos vulnérabilités en nous soutenant et en nous aidant les uns les autres. Le partage des vulnérabilités édifie l'unité. Aucun d'entre nous n'est à l'abri des défis, des épreuves, des faiblesses, des chagrins et des déceptions de la vie. En servant avec amour et en partageant nos pensées, nos expériences et nos ressources pour répondre aux besoins de ceux que nous servons, nous pouvons les inviter à venir les voir, à venir les aider et à venir et prendre leur place. Nous pouvons inviter ceux que nous aimons. Nous pouvons inviter ceux que nous aimons à ressentir ce que nous ressentons et à savoir ce que nous savons grâce au Saint-Esprit. En juillet 2022, Stéphanie et moi sommes rentrés de Manchester en Angleterre après avoir servi en tant que dirigeants de mission. Nous aimons le Royaume-Uni, ses habitants et sa culture. En tant que dirigeants de mission, nous avons eu des entretiens avec les missionnaires toutes les 6 semaines et au cours de l'une de ces sessions d'entretien, j'ai rencontré une sœur missionnaire merveilleuse. Au cours des mois précédents, notre relation s'était détériorée, au point qu'il y avait un manque de confiance entre nous. Malheureusement, le début de notre entretien a intensifié ces sentiments de méfiance. J'ai été très direct avec elle, et elle a été très directe avec moi. Nous avons passé la majeure partie de l'entretien à défendre nos propres points de vue. La frustration de cet entretien se reflétait clairement sur mon visage et dans mes paroles. Au milieu de notre conversation, cette bonne sœur missionnaire m'a demandé une bénédiction de la prêtrise. Cette demande est survenue à un moment vif de l'entretien. Je me suis dit, « Tu plaisantes. Tu me demandes une bénédiction maintenant? Cela n'a aucun sens. » Malheureusement, j'ai non seulement pensé ces mots, mais je les ai également exprimés à haute voix. L'entretien s'est terminé et je suis allé expliquer à Stéphanie ce qui venait de se passer. Stéphanie m'a répondu, « Non, dis-moi que tu n'as pas fait ça. » Il était évident que j'avais fait une terrible erreur. J'ai trouvé une salle vide dans le bâtiment de l'église et je me suis agenouillé pour prier mon Père Céleste au nom de Jésus-Christ. Les mots qui m'ont été adressés par le Saint-Esprit étaient clairs. « Peter, Peter, elle n'est pas à toi, elle est à moi. Aime-la comme je l'aimerais. » J'ai répondu, « Oui Seigneur, tu as déjà partagé cela avec moi une fois. S'il te plaît, aide-moi. » J'ai de nouveau reçu la réponse, « Peter, Peter, elle n'est pas à toi. Elle est à moi. Aime-la comme je l'aimerais. » Je me suis levé, j'ai retrouvé cette chère sœur et je me suis excusé de mon manque de compréhension et de mon manque d'amour pour elle. Nous avons parlé à nouveau, et cette fois-ci, j'ai passé plus de temps à écouter pour comprendre et pour vérifier ses besoins. Une fois que nous nous sommes compris, je lui ai demandé s'il voulait toujours la bénédiction. J'ai invité Stéphanie à entrer dans la pièce et j'ai donné une bénédiction de la prêtrise. Je ne me souviens pas des mots prononcés, mais chacun de nous a ressenti un amour accru pour Dieu et de sa part et l'un pour l'autre. Les anges ont exercé leur ministère sur chacun d'entre nous dans cette pièce, à ce moment très sacré. Alors, comment venons-nous au Christ? Nous nous plaçons sous son joug, en recevant les ordonnances, en contractant et en respectant les alliances, en devenant des apprenants engagés et en servant les autres un par un, comme il le ferait pour ses enfants. Mes amis, voyons-nous les uns les autres comme le Sauveur nous voit. Le Christ connaît nos incertitudes, nos doutes et nos inquiétudes. Sachez que nous sommes les enfants d'un Père céleste aimant qui nous connaît par notre nom Il connaît nos personnalités. Il connaît nos faiblesses et nos forces. Il connaît notre potentiel divin et notre destinée divine. Il nous permet de vivre des moments difficiles parce qu'il connaît aussi notre courage. Il nous fait confiance. Il sait que nous tendrons la main vers lui grâce au pouvoir rédempteur et purificateur de son Fils Jésus-Christ et de son expiation. Le Christ sait qu'il y a sur ce campus des personnes qui se sentent seules, marginalisées et maltraitées et qui ont l'impression que leur voix et leurs préoccupations ne sont pas entendues. Le Christ sait qu'il y a des personnes sur ce campus qui luttent pour connaître leur valeur individuelle et leur bonté, et des personnes qui luttent contre l'anxiété, la dépression et d'autres formes de défis émotionnels. Le Christ sait qu'il y a des personnes sur ce campus qui luttent contre diverses formes de dépendance, contre la drogue, contre l'alcool et contre d'autres formes d'abus de soi ou d'automutilation. Le Christ est également conscient des personnes sur ce campus qui désirent sincèrement aider, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, de peur d'offenser quelqu'un ou de causer plus de tort. Et oui, le Christ sait qu'il y a des personnes sur ce campus qui réussissent merveilleusement bien à servir et à aimer tant de gens, mais qui se sentent parfois dépassés et épuisés. À tous, son invitation à agir et ses bénédictions promises sont uniques et affectueusement intimes et adaptées spécifiquement à chacun d'entre vous et portent la même vérité puissante et éternelle. « Venez à moi, » il dit, « vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux. » Et mon fardeau léger. Le Christ a déclaré, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Mes amis, et vous êtes vraiment mes amis, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est notre Sauveur et notre Rédempteur. Il est notre Guérisseur, il est notre Avocat auprès du Père. Et mes amis, je vous laisse avec mon amour. Vous êtes beaux et vous êtes divins et j'espère que vous le savez. Chacun de vous est un enfant du Dieu vivant. Je vous laisse également mon témoignage que les paroles du Christ vivant sont vraies. Venez à lui et prenez courage. Il a vaincu le monde. Et avec lui, vous le pouvez aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.